Chapitre 9. Événements rapides. Une année s'écoula pour nos deux amis dans ces plaisirs touchants. Monsieur et Madame d'Héranville venaient les voir très souvent et ne les quittaient jamais que pénétrés d'estime et de tendresse pour leur fille comme pour Jeannette, qu'ils commençaient à regarder comme leur second enfant. Cependant, les troubles allaient en croissant et d'Héranville, qui ne pouvait y habituer son caractère, avait pris un tel dégoût pour la vie qu'il eût abrégé ses jours s'il n'eût pensé souvent qu'il était époux et père. Sa femme s'apercevait de l'effet sinistre que les chagrins de son âme faisaient sur son physique. Il était changé à faire peur et presque ruiné. Le feu, les dévastations avaient détruit ses plus belles propriétés. Il ne lui restait que quelques rentes et sa maison de Paris. Pour comble de malheur, un fils naturel de feu l'oncle Durand, profitant du bénéfice des nouvelles lois, vint revendiquer l'héritage entier de son père qui était passé improprement entre les mains d'un simple neveu. Cela fit naître un nouveau procès très long et pendant lequel il arriva d'autres événements propres à augmenter le désespoir de d'Héranville. Sa femme voulut, l'été d'après, aller se fixer à la bergerie près de ses enfants. Elle y vécut quelques mois tranquille, mais une chute qu'elle fit lui causa la mort en 12 jours de temps. Quel regret pour d'Héranville, Rosalie qu'il avait tant aimée, cette Rosalie qui était si nécessaire à son bonheur, à laquelle il asservissait toutes ses volontés, qui réglait ses moindres vœux et soutenait son courage. Rosalie n'existait plus et tous les malheurs fondaient ensemble sur son épouse infortunée. D'Héranville en aurait perdu l'esprit sans les consolations de Cécile et de Jeannette qui, non moins affligées que lui, trouvèrent encore la force de surmonter leur douleur et d'adoucir celle du plus malheureux des hommes. Pour faire distraction à ses chagrins, d'Héranville forma le projet d'aller visiter ses anciennes propriétés en province et de voir s'il ne lui serait pas possible d'en retirer quelques débris. Il voulut que sa fille l'accompagnât et Jeannette resta à la maison de Paris pour la diriger, ainsi que la ferme de Meudon, qui étaient presque les seuls biens qui restassent à d'Héranville. Ce dernier partit donc avec Cécile, et leur voyage fut tellement contrarié par diverses circonstances qu'ils restèrent plus d'une année absents. Il est vrai que d'Héranville, à qui tous les séjours étaient indifférents, restait dans une ville quand il s'y trouvait bien, et que son aversion pour Paris était telle qu'il retardait toujours à y rentrer. Pendant son absence, ses intérêts, auxquels il ne pouvait pas veiller, allèrent de pis en pis. Le fils naturel de l'oncle Durand gagna son procès par la négligence des hommes d'affaires de d'Héranville, et ce dernier fut condamné à lui restituer tout l'héritage dont il jouissait depuis plus de 20 ans. D'Héranville n'ayant plus assez pour rendre la totalité, on lui prit le peu de bien qu'il avait, et Jeannette, gardienne de la maison de Paris, se vit forcée d'en sortir pour faire place aux gens de la justice et aux véritables héritiers. Jeannette ne vit plus d'autre asile pour elle et ses maîtres que la ferme de la bergerie, qu'heureusement pour lui, d'Héranville, quelque temps avant, avait fait passer sous le nom d'un ami nommé Lefebvre pour se ménager cette ressource en cas qu'il perdît son procès. Jeannette écrivit cette triste nouvelle à d'Héranville, qui était alors en Bretagne, et ce coup le frappa tellement qu'il en tomba dangereusement malade. Sa tendre fille eut tant de soins pour lui qu'elle parvint à lui rendre un peu de santé et assez de force pour revenir à Meudon. Quelle entrevue que celle de ces infortunés avec la sensible Jeannette! Des larmes coulaient de tous les yeux. Plus de terre, plus de maison, plus de chevaux, de voitures. Jeannette avait congédié Victoire et son mari Picard. Plus de biens en un mot. D'Héranville ne put survivre à tant de douleurs. Il retomba accablé sous le poids de la maladie qu'il venait d'avoir et, en peu de temps, sa fille et son ami eurent la douleur d'apprendre que les gens de l'art désespéraient de ses jours. Quand d'Héranville vit approcher le moment fatal de sa destruction, il fit approcher de son lit de mort Jeannette et Cécile, qui fondaient en larmes. D'Héranville prit la main de sa fille et lui adressa ce discours touchant qu'elle n'a jamais oublié depuis. « Cécile, mon enfant, tu pleures et ta douleur augmente la mienne. Je ne te dirai point que j'éprouve des regrets de quitter cette terre d'infortune où la somme de malheur est toujours au-dessus de celle des félicités. Non, ma fille, je ne puis regretter que toi dans ce monde. Le reste est bien vil à mes yeux. Tu me regardes, tu examines cet asile plus que modeste, le seul héritage que je puisse te laisser. Tu vois ton père, autrefois si riche, si brillant, tu le vois expirer sur un grabat, pour ainsi dire, manquant presque des choses de première nécessité et donnant un triste exemple de l'effet des vicissitudes humaines. Cécile, tu sens maintenant, bien cruellement sans doute, ce que c'est que la fortune ici-bas. Tout se culbute, tout change de forme et de nature. Les biens échappent des mains de l'opulent pour aller enrichir le pauvre qu'il regardait naguère d'un œil dédaigneux. Les grandeurs quittent celui-ci pour élever celui-là et le repos n'est nulle part. Cécile, voilà mon seul chagrin. Je te laisse dans l'indigence, orpheline, sans état, sans établissement, et pour comble de malheur, je regrette d'avoir habitué ton enfance aux aisances, disons mieux, au luxe de la fortune. Ton changement d'état t'en sera plus douloureux. Je vais mourir, ma fille, ignorant quel sera ton destin à venir, te laissant sans parents, sans amis. Sans amis, que dis-je? N'as-tu pas cette bonne, cette estimable Jeannette qui peut te servir de guide, de soutien, de consolation? Elle est plus âgée que toi, elle a plus d'expérience. Ne l'abandonne, ne la quitte jamais, ma Cécile. Qu'elle te tienne lieu de mère de tout ce que tu as perdu. Ma fille, je t'ordonne de vivre avec elle, d'unir ton sort au sien et de l'écouter comme une bonne, comme une sage amie. Me promets-tu de respecter cet ordre de ton père expirant ? Cécile ne peut que répondre en sanglotant. « Oh, mon père, vos moindres vœux seraient sacrés pour moi, quand même mon cœur ne me ferait pas un bonheur de les respecter. » Le moribond fait approcher Jeannette. « Et toi, Jeannette, lui dit-il, et toi, fille estimable et chère, si jamais tu te rappelles que jadis, dans la prospérité, mon épouse et moi nous jetâmes un regard de compassion sur le berceau de l'enfant abandonné, si tu te souviens toujours de l'adoption que nous fîmes de toi, dans un temps où la pitié des hommes te donnait un pain que les enfants du malheur te disputaient, si tu gardes enfin le souvenir de la tendresse constante que je t'ai témoignée et qui n'a pu être altérée qu'un moment par la tendre sollicitude d'une épouse devenue mère, ô Jeannette, veille sur ma fille, sur ce précieux trésor que je te confie, sauve-la des pièges de la séduction, des embûches des méchants, de l'horreur de la pauvreté. Que le travail de tes mains s'unisse à ce désart que nous lui avions donné pour son seul agrément et que, réunis ensemble comme deux sœurs, tout vous soit commun comme vos deux cœurs. Jeannette, c'est ainsi que tu reconnaîtras les soins que nous avons pris de toi, c'est ainsi que tu consoleras dans la tombe les mânes de Rosalie et les miens. Jeannette, avec la certitude de ton amitié que je laisse à ma fille, je meurs plus tranquille et cette obligation que je t'aurai m'est une douce récompense du bien que j'ai pu te faire. Ne pleurez pas toutes deux et recevez, avec mes derniers soupirs, la bénédiction d'un père qui vous a toujours confondu dans son cœur et dans sa pensée. Ne reculez point aux approches de la mort qui va me saisir et qui, depuis longtemps, faisait l'objet de tous mes vœux. Elle est terrible pour l'homme heureux, mais pour l'infortuné, elle n'est que le passage du malheur à l'éternelle félicité. » Déranval le dit, et ses deux enfants, ainsi qu'il les nommait, couvrirent ses mains des larmes du regret et des baisers de la tendresse. Il y parut sensible et ajouta ces mots à ceux qu'il venait déjà de prononcer avec beaucoup de peine. « Jeannette, sans doute ton état obscur et l'ignorance de ta naissance sont et doivent être pour toi la source d'une longue sécurité. Cependant, si jamais tu éprouves le désir de recouvrer tes parents, désir qui pourrait être pour toi la source de mille chagrins, il est possible que tu réussisses dans cette recherche, quelques difficultés qu'elles paraissent d'abord t'offrir. Lorsque, dans la maison des enfants trouvés, on te remit à mes soins, on me dit qu'un particulier, voisin, t'avait trouvé, à l'époque de ta naissance, dans l'allée de sa maison. Catécoté était un papier non cacheté, trop insignifiant pour qu'on se donnât la peine de faire des recherches. On me donna ce papier, je l'ai, tu le trouveras dans le petit coffre où j'ai conservé quelques bijoux de ta mère, ma Cécile. J'aurais pu cependant profiter de différentes indications que me donnait ce papier mystérieux, mais je t'aimais trop, Jeannette, pour m'exposer à la dure nécessité de te rendre à des personnes qui auraient eu le droit de te réclamer. Ma femme et moi, nous avons enfermé soigneusement cet écrit, assez vague d'ailleurs, et nous n'avons jamais voulu en faire usage. Mais si tu en as besoin, Jeannette, tu t'en serviras. Et peut-être une découverte funeste t'arrachera-t-elle des bras de ma fille. Jeannette, si tu m'en crois, tu resteras dans l'ignorance où tu as vécu jusqu'à présent. À quoi te servira-t-il de retrouver des parents qui ont été assez dénaturés pour t'abandonner, qui peuvent à présent abuser de leurs droits imaginaires pour te tourmenter? S'ils sont pauvres, quel bien en attendras-tu? S'ils sont opulents, tu t'exposeras à leur mépris, aux vexations peut-être, d'héritiers avides dont ta présence détruira des espérances et qui, te regardant comme j'ai fait du fils naturel de notre oncle Durand, peuvent t'accabler de procédés plus injustes que ceux dont j'ai usé envers ce destructeur de ma fortune. Jeannette, chéris le repos, ma fille, chéris le repos et l'obscurité. C'est là, là seulement, qu'on est sûr de rencontrer le bonheur. Tel est le conseil sage et mûri par l'expérience que te donne ton bienfaiteur mourant. Regarde-le aussi, ce conseil prudent, comme un avis du ciel. Car l'homme, à ses derniers moments, entrevoit l'éternité. Son âme s'épure et son esprit prend déjà une partie de ce feu divin, prophétique, qui doit l'animer pendant l'incommensurable éternité. Jeannette et Cécile s'empressèrent de témoigner aux moribonds la soumission avec laquelle elles écoutaient ses moindres leçons. Il en parut flatté et quelques heures après, il expira. Ainsi, Déranville suivit de près au tombeau sa bonne Rosalie et ces deux êtres qui, dans le cours de leur vie, avaient fait plus de bien que de mal sur la terre, y laissaient deux jeunes personnes dans l'indigence, au milieu des passions de leurs semblables et dans le trouble d'une révolution qui donnait encore plus d'activité à ces passions funestes à l'innocence. Déranville, Rosalie n'étaient plus. Ils offraient un triste exemple de cette fatalité qui, du fait de la félicité, précipite certains individus dans une mer d'infortune, dans le néant.